C'est vrai que tu es rapporteur de la commission des lois pour le projet de loi, ça c'est pas une bêtise, relatif à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Explication, c'est quoi ton job ?
Explication, c'est simple. Le gouvernement doit organiser, d'un point de vue législatif, les conditions d'une réussite pour les Jeux Olympiques de 2030, comme cela a été le cas pour les Jeux Olympiques de 2024. Donc nous avons un texte d'origine gouvernementale qui arrive au Parlement. Il entre d'abord en première lecture au Sénat. Le 24 juin, il sera en séance. Pour cela, 18 des 37 articles concernant ce texte passent à la commission des lois, dont je suis un des membres. Et donc j'ai été désigné par la commission des lois pour rapporter les 18 articles. Ça signifie que j'ai organisé une trentaine d'auditions. Renaud Muselier, Pankouk, l'administration, etc. Et je questionne sur la base du texte tel qu'il est entré et proposé par le gouvernement. Je questionne les parties prenantes de ce projet de Jeux Olympiques.
Pour avoir un peu leur avis, ce qu'ils en pensent.
Pour savoir ce qu'ils en pensent, sont les difficultés, etc. Je prends deux articles sur lesquels j'ai eu des observations et j'amende le texte. Donc, c'est passé hier matin en commission. Donc, je rapporte le texte devant tous les commissaires. Il y a une discussion avec les commissaires, c'est-à-dire les sénateurs. Et ensuite, il y a une mise aux voix au sein de la commission. Et ensuite, ce texte passe en séance, lui-même pouvant être de nouveau amendé par des sénateurs qui ne font pas partie de la commission des lois, pour faire simple. J'espère ne pas vous avoir perdu. Et donc je peux amender ce texte. Donc, c'est la puissance et la force du rapporteur. Moi, j'ai apporté deux amendements qui me semblaient essentiels sur ce texte, dans tous les cas pour les articles que j'avais à discuter, à rapporter. Un sur l'article 5, qui est que le gouvernement prévoyait, sans qu'on sache précisément ce qu'il en sera le moment venu, l'éventuel déficit des Jeux Olympiques de 2030.
Et qui paye ?
Et le gouvernement dit l'État prendra 50% de l'éventuel déficit et la moitié restant, donc un quart chacun, les deux régions. Sauf quand j'ai auditionné les deux régions...
Il entendait.
Quand j'observe la carte des sites qui n'est pas encore sécurisée, quand j'observe le travail qui reste à faire sur le comité olympique d'organisation des JO, quand je sais la charge de la société de livraison des Jeux Olympiques, parce que j'ai concerté évidemment, notamment les élus des Hautes-Alpes, notamment du Briançonnais, le président du département, etc., halte là, ne prenons pas, même si c'est qu'une autorisation et pas une obligation, voilà, j'ai déposé un amendement pour dire j'efface cet article.
Ouais.
J'ai été suivi en commission, je verrai en séance la semaine prochaine. Deuxième article, l'article 12. C'est la concertation et la manière dont on peut concerter les populations. Sujet un peu sensible. Donc j'ai auditionné le président de la Commission nationale du débat public et j'ai évidemment souligné le fait qu'il était nécessaire que l'on puisse avoir une concertation sur les projets et donc rappeler que c'était un élément important que de concerter les populations. Et le troisième sujet, ce que j'ai dit deux, mais en fait il y en a trois, c'était de faire en sorte aussi que sur les procédures accélérées, notamment pour les expropriations de terrains éventuellement nécessaires pour réaliser un certain nombre d'équipements, il ne fallait pas sous-estimer qu'il puisse y avoir des expropriations nécessaires pour des élargissements de voiries, par exemple nationales et départementales, et que dans les équipements annexes ou connexes aux équipements de Jeux Olympiques sur les sites proprement dits sportifs, il était nécessaire de mettre en parallèle les mêmes procédures pour que le département, par exemple, ou la Dréal, dans le département des Hautes-Alpes, puisse faire un petit aménagement sur la RN 94 et qu'on ait des procédures accélérées pour les expropriations, pour qu'on puisse livrer dans le temps. Voilà, c'est le travail d'un parlementaire. Et ensuite, ça passe en séance et puis on discute. Et il y aura un texte qui sera voté par le Sénat, qui partira à l'Assemblée nationale, et ça viendra en navette. Et certainement, je serai membre d'une commission mixte paritaire à l'automne, qui essaiera de trouver un point d'appui pour qu'on converge entre l'Assemblée nationale et le Sénat, pour qu'on ait le texte, loi olympique, pour préparer dans de bonnes conditions les Jeux olympiques de 2030. Donc c'est un travail parlementaire.
Et voilà. Donc,
clair.
Voilà. Vous comprenez le travail d'un sénateur.
C'est ça. Ouais. Moi, j'avais quand même, je voulais rebondir sur le sujet parce qu'évidemment, il y a bien une procédure d'accélération de l'utilisation du terrain privé, hein, d'expropriation, notamment sur la vallée de l'Avance. Ça fait quand même débat, ça fait du bruit ces jours-ci. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, tu as eu un peu des retours de vagues. Donc il y a une grande partie des agriculteurs qui sont inquiets parce qu'ils ont vu arriver l'élargissement de la nationale qui est la
départementale.
Laquelle ?
Départementale 942.
Voilà, c'est toute la vallée de l'Avance et donc c'est vrai que les gens ils ont été un petit peu douchés quoi. Je pense qu'il y a un certain manque de communication. Moi je reste très favorable aux JO, mais je pense qu'il faut qu'il y ait la communication qui se mette en place au niveau départemental, notamment sur les infrastructures. Parce que là, c'est la douche froide cette semaine au niveau de la vallée de l'Avance. c'était bras-le-bas de combat. Ils ont vu arriver des gens dans les champs pour faire des relevés et sans savoir ce qui se passait.
Ouais.
Donc
côté, ils vont pas prendre le champ complet s'il faut une petite.
Ils vont toucher des sous.
C'est vécu comme une intrusion quand même.
Ça devrait, il devrait y avoir sur ces grandes réalisations là, il devrait y avoir une compensation qui est prévue. Mais elle est financière. Mais là, il y a normalement, il y a une compensation au mètre près. Et il aurait fallu l'anticiper pour faire du stockage de foncier et autres.
Moi, je m'exprime là. Je ne suis pas président du conseil départemental, ça se saurait. Mais deux, trois observations. C'est une question de phasage. D'abord, pour l'instant, il n'y a aucune décision de prise sur un élargissement sur la route de l'Avance. La seule décision qui est prise depuis quelques années, 1997, c'est que l'autoroute A51 ne passera pas par la vallée de l'Avance.
Non.
Donc les parents de celles et ceux qui sont aujourd'hui exploitants agricoles s'en souviennent, probablement les enfants ne s'en souviennent pas.
Ouais.
Donc il faut aussi relativiser. Deux, le département a proposé un plan d'action à plus de 220 millions d'euros pour pouvoir remettre à niveau le réseau routier départemental. Et pour celles et ceux, y compris les autochtones, c'est-à-dire les Walpins qui se baladent un peu entre Briançon et Gap, ou même la sortie d'autoroute A51, on en parlait tout à l'heure, je pense qu'il n'y a pas un non-sujet, c'est un vrai sujet.
Oui.
Trois, qu'il y ait éventuellement des pré-études, c'est normal qu'il y ait des pré-études puisqu'on va être dans des délais courts. Pour l'instant, la seule chose que je puisse vous dire, c'est qu'on n'a pas encore les arbitrages financiers, donc il faut que tout le monde se calme, et que le moment venu, si on a la possibilité de faire des travaux, ce que je souhaite, là ou ailleurs, les concertations seront faites. Il y aura évidemment des enquêtes publiques. Ce n'est pas parce qu'il y a une accélération de procédure qu'il n'y a plus de procédure. Donc il y aura évidemment des consultations par voie électronique, il y aura des enquêtes publiques. On n'en est vraiment pas là. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'on alimente les peurs inutilement. On sait qu'un certain nombre d'associations alimentent des peurs sur le sujet JO. Il ne faudrait pas que non plus les agriculteurs s'y mettent et que tout le monde soit dans une logique de crainte et d'exagération des craintes, alors que moi j'aime bien avoir mal, mais quand j'ai mal, quoi.
Le ressenti,
pour l'instant, on a pas mal.
Le ressenti, c'est que c'était plutôt le manque d'informations qu'il y a eu localement.
C'est
que les gars, ils ont vu arriver des agents et puis ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe?
Je pense qu'il vaut mieux
communiquer un peu en amont, quoi, parce que c'est là que, quand on communique en amont, c'est là qu'on démine bien souvent les sujets.
Alors, on était sur l'autoroute. Ça tombe bien. Alors,
le rond-point.
L'autoroute qui ne passe pas. Ah bah, ça me surprend. Je suis arrivé ici en 1998 et j'ai vu un panneau fin provisoire d'autoroute. On est en 2025, il y a toujours fin provisoire d'autoroute.
Ah, il était démonté.
Alors,
il y a une piste cyclable depuis.
C'est vrai, t'as raison. Ah mince, ça me manque. Bon, toujours est-il que je me suis rendu compte qu'il y avait des travaux sur le fameux rond-point de Tallard. Alors moi, je l'appelle comme ça. Je ne sais pas si vous l'appelez comme ça.
Non,
je crois
c'est de l'Arizona.
Hein,
c'est bon.
Et alors, à chaque fois que j'y passe, je ne comprends que dalle. Je dis,
mais je sais pas dans quel sens le prendre.
Non, mais c'est surtout, qu'est-ce qu'ils font? À quoi ça sert? Et je comprends pas. Je sais pas, moi, si tu veux gagner du temps, mais un pont. Tu fais un pont. Voilà. Tu fais un pont, comme ça tu fais passer les gens en dessous, au-dessus, et tout le monde, et il n'y aura pas de blocage. Je ne comprends pas. Vous comprenez ce qui se passe, vous?
Moi, pour le vivre, Jean-Michel est
Jean-Michel
local aussi.
Il est en plein dedans.
Moi, pour le vivre, parce que c'est un point névralgique pour monter à Gap, j'avais très peur des travaux. Et je trouve qu'il se passe
pas trop mal. La question que je te pose.
Mais, par contre,
je te
c'est
pose
vrai
pas cette
qu'on
question.
On a un peu du mal à comprendre ce qui se passe.
Ah, voilà.
Mais moi, je pense que ça va. J'ai bon espoir que ça régule quand même certains problèmes. Quoi. Je pense qu'il va y avoir un échappatoire vers Tallard tout de suite.
Hop, il viendra après. Patounet, t'as tout compris ou pas?
A priori, c'est pour
T'as rien compris du tout.
Secteur.
Oui, Oui, d'accord. Ok, Michel, toi, t'habites pas loin.
Ah ouais, parce que nous, des fois, on a la queue des voitures jusqu'à l'étrée.
Mais je sais, je sais.
Donc on verra bien l'efficacité.
Ah ben tu mets des camions pizza au bord de la route.
Bon alors.
Non mais on a pensé à tout, c'est fait.
On va peut donner la parole à Jean-Michel. Moi je voudrais connaître le blaireau qui a eu l'idée de faire ce truc là. Jean-Michel.
Si je connaissais
le blaireau, c'est moi.
Eh oui, c'est toi.
Et j'assume totalement l'opération et je vais expliquer pourquoi.
Oui alors vas-y explique parce que moi j'ai
parce
pas
que je
compris.
Préfère qu'il se passe quelque chose que rien.
Taquine, hein,
les Français veulent savoir.
J'assume complètement. C'est une opération qui date de Madame Nicole Klein. Préfète des Hautes-Alpes en son temps, plus de 10 ans.
Ouais.
Pendant 15 ans, on s'est battu avec les conseils municipaux de Tallard pour dire on ne peut plus continuer comme ça. Donc on a eu effectivement la possibilité de faire inscrire cette opération dans le cadre du contrat de plan État-Région. On aurait souhaité quelque chose de plus ambitieux. entre quelque chose de plus ambitieux qui aurait probablement résolu peut-être mieux le problème que ce que nous connaissons aujourd'hui et rien du tout. En bon centriste que je suis, je préfère quelque chose qui améliore la situation. Donc ce qui améliore la situation, c'est ce que nous sommes en train de faire, quand je dis nous, l'État, parce que c'est l'État qui le fait. Donc une piste cyclable, je sais que ça ne plaît pas, mais moi j'étais favorable à une piste cyclable. J'étais autant plus favorable à une piste cyclable qu'on a fait 800 mètres de piste cyclable pour arriver jusqu'à l'entrée du collège, et que l'agglomération et l'ensemble des acteurs vont prolonger le lien jusqu'à la Solse, ce qui permettra de sécuriser, et c'est pas peu de le dire, parce que la section entre la sortie de l'autoroute A51 et le fameux feu tricolore de Tallard, qui existe encore pour quelques semaines, c'est un coupe-gorge, et c'est le lieu où il y a le plus de circulation dans les Hautes-Alpes en matière de densité. Donc l'idée UTT idéale, UTT de doubler, ou dans tous les cas de faire une troisième voie sur le pont en question. Avoir une troisième voie, ça n'a pas été possible pour des raisons de budget, et donc on a fait
ce qu'on pouvait faire de mieux
avec les moyens du bord, c'est-à-dire une piste cyclable que j'ai demandé, que nous avons demandé pour avoir un lien jusqu'à la Solse, c'est la piste à droite, en descendant, totalement sécurisée, et je peux vous dire que ça va nous rendre des services, avec un giratoire qui est conçu pour intégrer cette piste cyclable, d'où le diamètre assez important, une entrée de trois voies juste avant l'entrée du pont, qui est insuffisante, mais dès lors que l'État ne voulait pas refaire le pont, c'était compliqué de faire autrement. Et puis, on va essayer de voir comment tout ça fonctionne. Moi, je pense que ça fonctionnera mieux pour 95% des usages
mieux
quotidien.
Que les feux.
Mieux que les feux pour 95% des usages du quotidien. Et puis, je vous le dis, j'ai un scoop pour vous. Quel qu'eût été l'aménagement, dès lors que vous avez 50 000 véhicules qui passent en 2h30 les dimanches soirs, une demi-douzaine de semaines par mois, par saison, vous n'arriverez jamais à faire entrer 20 litres d'eau dans une bouteille d'un litre.
Ouais, c'est sûr.
Donc c'est également le passage à l'entrée du péage qui pose problème, à la sortie comme à l'entrée. Donc il faut accepter cette idée-là, ou bien accepter un projet alternatif, et ça fait écho à ce qu'on disait sur la vallée de l'Avance, qui était de faire une entrée d'autoroute à 51 au marché paysan, et de reporter l'autoroute A51 soit au futur, enfin l'entrée de la vallée de l'Avance côté Montgardin, et on remontait les bouchons sur toute la RN94.
Oui,
donc on a fait, ce que je dis souvent, c'est que la vie, on peut imaginer qu'elle est magique, et puis après, le matin, tu te lèves, tu te regardes dans ta glace, tu te rases, tu dis, tiens, un peu des cheveux blancs, t'es un peu
plus de sa gueule ce matin, hein.
Et tu vis avec la gueule que tu as, et tu vis avec la vie que tu as. Donc il faut être pragmatique. Et je pense que ce projet-là va améliorer la situation, même s'il ne satisfait pas tout le monde.
Ouais.
Après, j'ai entendu un certain nombre de personnes qui sont des sachants, qui imaginent toujours qu'il fallait faire mieux sur les réseaux sociaux, que c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Ben, nous, on a fait. Voilà, et on a fait. Et moi, je soutiens ce projet parce qu'il améliorera la situation, même si c'est pas idéal.
Ouais.
C'est dommage que l'État ait mégoté sur la troisième voie, parce que, franchement, c'était. Moi, je croyais au début qu'à la place de la piste cyclable, il allait y avoir une troisième voie. Mais c'est une des solutions, quoi, de toute façon, pour accélérer au moins la sortie et puis la bifurcation sur Tallard. Mais c'est dommage que... C'est un mauvais calcul de la part de l'État, parce que depuis le temps qu'on en parle, je pense qu'ils auraient pu aller jusqu'au bout du projet. Au moins, ils n'y revenaient pas tout de suite.
Oui, non. Il y avait peut-être d'autres priorités aussi en termes de budget. Bah,
après, c'est toujours pareil, c'est une question budgétaire. Il n'y a aucun de nos concitoyens qui veut payer plus d'impôts, aucun concitoyen qui veut lâcher un peu la dépense publique dès lors qu'elle le concerne. Et puis, il y a autant de citoyens qui disent c'est pas comme ça qu'il faut faire, il fallait faire mieux. Moi, je suis solidaire de la position de l'État. Je soutiens le préfet des Hautes-Alpes, le préfet de département, l'Adréal, qui ont eu le mérite de nous accompagner pour qu'il se passe quelque chose, parce que l'autre alternative, c'est de discuter pendant 30 ans comme pour
et de rien faire.
Et de rien faire. Donc on fait mieux. J'étais défavorable à la déviation de Tallard, parce qu'elle coûtait d'abord 200 millions d'euros, qu'elle résolvait aucun problème majeur, puisque ça reportait sur l'eau à l'avance. Soit on avait l'autoroute A51, je parle comme quelqu'un d'il y a 30 ans, aménageant du territoire par le Champsaur, et on allait jusqu'à la vallée de jusqu'au plateau Matézin. Là, il y avait une logique. Dès lors qu'on a arrêté ce projet-là en 97, maintenant on adapte. Et je pense qu'il faut qu'on adapte tout au long de la RN94 jusqu'à Briançon. On a la Roche de Rame à aménager. On a certainement 2-3 endroits encore à imaginer en termes de déplacement et de doublement sur cette voie. On a des choses à faire sur la vallée de l'Avance. On a un giratoire à améliorer aussi sur la route de la Luye. Un aménagement aussi à faire sur la vallée de l'Avance. Voilà, ça progresse.
Et à terme, le pont de Savine.
Et à terme, le pont de Savine, qui est un autre sujet. Et on a la possibilité, avec les Jeux Olympiques, d'accélérer les moyens financiers à disposition des Hautes-Alpes. Voilà, donc on y va. et respectueux de l'environnement. Donc voilà, donc je pense que le on jour, peut toujours faire mieux, mais moi je suis assez fier de ce qui est fait quand même,
le
même
jour,
si c'est pas parfait.
Le jour où on va s'attaquer au pont de Savines, ça va être chaud patate quand même. Hein. Alors je ne sais pas ce qu'ils vont trouver comme solution, parce que si c'est comme le pont
du Rio Bordeaux,
ça va en mettre 2h30-3h pour aller à Briançon.
Je salue d'ailleurs ceux qui nous écoutent, qui sont dans les bouchons actuellement.
Exactement. On leur fait un petit coucou au passage. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, côté esthétique, est-ce que tu as opté pour un rond-point particulier, un peu cacahuète par exemple, ou haricot, ou plutôt asperge ?
Non, c'est un rond-point talardien, donc il est assez classique.
Voilà, le rond-point classique. Non, parce que j'ai noté que le cacahuète, c'est quelque chose qui va toujours étonner. Non, mais ce cacahuète-là, ça me fait rire. Bon, c'est pas tout ça, mais un dernier sujet avant d'écouter une dernière chanson, c'était, oui, la dissolution de l'Assemblée. Ça fait pile poil un an, hein, en gros, on y est. Alors, la question, elle est toute bête. Bonne ou mauvaise idée ? On va commencer par Michel.
Alors, bonne ou mauvaise idée, j'en sais rien.
Merci Michel.
Ce que je veux dire, c'est que pour moi, ça a été un geste démocratique, puisque, a priori, il était un peu dans les choux, notre président, et il a dit, bon, Français, vous en savez plus que moi, je vais faire...
Vous avez opté pour ça, allez, on recommence.
Le résultat, il est ce qu'il est, on peut se le reprocher qu'à soi-même.
Ouais, mais le résultat, c'est qu'on ne sait pas où on s'assoit, hein, grosso modo, on ne sait pas sur quelle fesse s'asseoir.
Je crois qu'il... Alors, pour finir, le problème, c'est qu'il y a quand même un élément fondamental, c'est la nation. La nation, au bout d'un moment, il faudrait savoir ce qu'elle veut.
Ah, oui.
Eh oui, parce qu'elle veut être servie, mais après, on veut, comme disait Jean-Michel, on veut ça, mais on veut pas payer, entre guillemets. Il y a un moment donné, enfin,
on peut pas payer.
Enfin, moi, je l'interprète comme ça. Je dis que bon, Macron, il a eu un élan de démocratie en disant, puisque je conviens plus, il y a une solution, c'est celle-là.
Oui, non, mais là, je t'arrête mieux. Et je dis, si je conviens plus, je m'en vais aussi. Oui,
il y avait la solution. Aussi, dans ces cas-là.
Alors, il a d'autres ambitions au niveau international sur lesquelles il est bon ou il n'est pas bon, mais en tout cas, il a quand même sa place. Donc, c'est vrai qu'il. Voilà, c'est bien beau de. Et, très objectivement, on sait ce qu'on a. D'accord ? Le pire est peut-être à venir.
Voilà, Michel qui est optimiste.
Ça fait plaisir, c'est la dernière du coq à l'âne.
Michel est optimiste.
Explosion nucléaire bientôt.
Patouné.
Ben, moi j'ai vu qu'il avait reparlé de ce sujet-là avec Brigitte et qu'il avait pris une tarte avant de descendre de l'avion. T'arrêtes tes conneries un peu, mais non, ça suffit.
Non, mais je déconne.
Mais bon, je ne suis pas convaincu que si on redissout, ça va résoudre tous les problèmes. Je pense qu'il faut qu'on arrive.
Si on n'avait pas dissous, si on n'avait pas dissous.
Ouais, mais on va pas refaire le match. On va pas refaire le match. Il a dissous.
Ouais.
Il n'aurait pas dissous, ce serait quoi ? On s'en serait où ? J'en sais même pas.
C'est impossible.
Il faut faire des économies, ça c'est une réalité. Tu vas chercher les sous, tu donnes les moyens à qui. Enfin bon, c'est plus que complexe le système là. Je veux dire, va chercher des sous, remets ça un peu dans la sécu, me réinjecte un peu dans l'hôpital parce que la santé, l'éducation, ça pêche énormément. Effectivement, il y a vraisemblablement des. Il y a un mauvais usage de l'argent public. À mon avis, la répartition, elle est pas bonne et c'est plus là-dessus.
Jean-Michel
devrait travailler.
Va peut-être pouvoir nous éclairer là-dessus puisqu'il est dans les dossiers.
Des pistes, mais il y a des économies à faire. C'est indéniable. Je pense qu'on a l'argent, mais on n'a pas la bonne répartition.
Bono.
La dissolution, elle a un peu calmé les choses, mais on se retrouve dans une situation où on n'a pas beaucoup plus avancé. Moi, je pense que c'est pas le sujet du jour. Il faut finir ce mandat. Enfin, il faut qu'il finisse son mandat et puis on verra. Après, je me pose un peu la question, comme Michel, de savoir ce qui va se passer après et savoir si on va un petit peu remonter le niveau. J'ai envie de dire
le niveau c'est... politique général, tu
politique
veux dire
politique général, ah, ouais, voilà. Ouais, ouais. Ça serait bien.
Alors ça c'est pas bien. Écrit. Hein.
Je suis un peu dubitatif et un peu inquiet et puis un peu démotivé aussi en tant qu'électeur.
Ouais.
J'y vois pas le bout du tunnel, tu vois.
Oh, voilà. Bah, et Jean-Michel, t'as fait plaisir, t'as vu un peu le tour de table.
Bah, je vois ça.
Ça calme. Hein.
Moi, je pense que c'était une grosse connerie. Hein, faut dire les choses comme elles sont.
Alors, attends. La seule chose que je voudrais te dire, avant de te laisser la parole, tu dis que c'est une grosse connerie. Imagine s'il ne l'avait pas fait. Vu les résultats qui étaient tombés, est-ce que les premiers à être montés au créneau, à savoir LFI, et le Front National, enfin le Rassemblement National, n'auraient pas tapé du poing sur la table en disant « mais il faut dissoudre, il faut dissoudre, il faut dissoudre ». Moi, c'est la question que je me pose.
De toute façon, LFI et le RN, depuis 10 ans, 15 ans, enfin, ou ceux qui les ont précédés, demandent la dissolution, la démission en permanence.
Oui, c'est pas faux.
Donc, je dis, c'est une grosse connerie pour ce qu'on a vécu ces derniers mois. Parce que une instabilité totale à l'Assemblée nationale, Michel Barnier qui a été renvoyé dans ses
assez chères cordes, études, comme on dit.
Une situation où on a pratiquement aucun texte sérieux qui passe à l'Assemblée nationale et on n'arrive pas à gouverner, à réformer le pays. Mais j'aurai mon mot définitif en 2027. Parce que au moment du nouveau cycle politique qui naîtra de l'élection présidentielle, puisqu'Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter quoi qu'il en pense, quoi qu'il en veuille, on verra comment le nouveau cycle politique se rétablit. Donc la réponse définitive sur est-ce que c'est une connerie, moi j'ai dit c'est une grosse connerie,
faut pas
ou est-ce que c'est une connerie définitive,
des carabistouilles à nos concitoyens, hein.
c'est en 2027 que nous le saurons. Maintenant, moi je vois les dégâts quand même déjà aujourd'hui. La loi agricole, on n'est pas encore au bout. Le budget, on va avoir de grandes difficultés à le boucler. On parle de 40 milliards d'économies, je ne sais pas d'ailleurs d'où sort ce chiffre, mais enfin, dans tous les cas, il y aura des efforts à faire. Est-ce qu'il y a un consentement aux efforts de la part de nos concitoyens? Ça reste à vérifier. Emmanuel Macron avait une majorité, certes relative,
il
n'en a plus du tout, et il avait une majorité absolue, si on regarde le bloc central tel qu'il est aujourd'hui, entre le PS modéré et les LR, même qu'avec les LR, il y avait une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Donc, se pose la question aujourd'hui d'un débat autour de la proportionnelle. Donc, est-ce que globalement les partis politiques sont en capacité d'avoir une maturité suffisante pour trouver des accords de gouvernement, même s'ils ne sont pas d'accord sur tout? Est-ce qu'on a des hommes qui vont pouvoir incarner, j'ai des doutes là-dessus, à l'occasion de l'élection présidentielle, suffisamment de hauteur et de pouvoir rassembler pour qu'un président de la République reste un président de la République et pas un Premier ministre bis? Voilà, donc on est dans cette situation. Il nous reste un an et demi, deux ans, putain c'est long, comme disait Jacques Chirac, les guignols, voilà. Donc c'est long, et on a un budget à voter, on a à l'est de l'Europe une situation internationale très compliquée, voilà, et des Français qui, pour certains d'entre eux, se sentent appauvris, se sentent déclassés, et le sont, avec des difficultés majeures pour boucler les fins de mois, et puis des débats sur les ultra-riches. Moi, par exemple, je suis là avec vous aujourd'hui, donc je donne une consigne de vote sur la loi Zucman pour taxer les super-riches qui ont plus de 100 millions d'euros. Je vote ce texte, même s'il est d'origine PS ou écolo, parce qu'à un moment, on ne peut pas dire aux plus petits, même aux classes moyennes, payez plus, et qu'on ait des gens super-riches, 100 millions d'euros de patrimoine. On leur demande 0,5% de contribution, toute fiscalité confondue. Qu'est-ce qui est choquant là-dedans? À un moment, faut y aller aussi. Voilà, faut y aller. Et je le dis parce que je suis un élu de terrain, parce que je suis un enfant du pays, parce que je sais ce que c'est en tant qu'Haut-Alpin, ce qu'est la vie des Hauts-Alpins. Bah, il faut arrêter avec tout ça. Voilà. Et il faut à un moment dire un chat, c'est un chat, et avancer et faire en sorte que les contributions soient justes aussi par ceux qui profitent quand même largement du système. Et les ultra-riches profitent énormément du système à l'international, et y compris au niveau local. Donc il faut que chacun contribue à la hauteur des enjeux du pays, et qu'on ne chasse pas simplement le pauvre sous prétexte, et elle est réelle, la fraude fiscale elle existe, la fraude sociale elle existe, mais même si vous chassez tous les pauvres qui font de la fraude sociale, et il faut le faire, vous ne résoudrez pas les problèmes en macro.
Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi faire une avancée sur l'optimisation fiscale et arrêter avec cette optimisation fiscale? Parce que il y a quand même... Parce que là, on autorise en fait les gens à optimiser. Hein. On les autorise.
Non, mais oui, il y a non seulement l'optimisation fiscale, mais la difficulté qu'on a aujourd'hui en France.
On parle des plus riches, hein, là, bien sûr.
Les plus riches, c'est pas lié à l'activité économique. C'est pas les raisons pour lesquelles ils sont les plus riches. C'est que les gros héritiers font de gros bénéficiaires des héritages des gros héritiers. Et que par le simple fait d'avoir des volumes financiers très importants par les gros héritages, centaines de millions d'euros et compagnie, ils font des petits sans que vous ayez besoin de travailler.
Oui, bien sûr.
Et comment vous allez expliquer...
Toujours rêvé de faire ça.
Au Gugus, à notre concitoyen, aux Français qui travaillent honnêtement, que lui, il va payer plus de TVA, il va avoir un reste à manger difficile en fin de mois, alors que vous avez des héritiers, la noblesse d'État, comme on l'appelle, la noblesse économique, qui se reproduit et se reproduit sans aucune difficulté. Donc je pense que la question de l'héritage qui est souvent dévoyé parce que les gens, quand on parle héritage, ils pensent à leur petit héritage, à la maison et compagnie, mais c'est pas ça dont je parle, c'est des gros héritiers.
Ah, ben faudrait réformer la flat tax, par exemple, sur les dividendes.
Bien sûr.
Tu as des niveaux importants.
Oui, toi, c'est en plus un domaine que tu es là pour faire optimiser en plus.
Oui, mais après, on utilise les lois qui existent.
T'es un peu en enfoiré, quoi.
Non, on utilise les lois qui existent, mais on en fait souvent plus profiter les gens qui ont des petits patrimoines
qu'autre
chose. Et sur de la flat tax, tu aurais une graduation par rapport à des dividendes touchés. Tu toucherais peut-être que 5% d'une certaine population, mais je crois que tu peux un peu ouvrir les vannes parce qu'ils seraient pas malheureux pour autant.
Sur la notion des dividendes, est-ce qu'on doit servir des dividendes très importantes aux actionnaires ou est-ce qu'on doit, sur une partie du résultat de l'entreprise, réinvestir? Parce que c'est ça aussi le sujet.
Bien sûr.
Donc, est-ce qu'on sert les rentiers ou est-ce qu'on sert l'investissement du pays?
Oui,
donc,
est-ce qu'on oblige à de la réinvestissement de dividendes?
C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre ceux qui créent de l'emploi et ceux qui sont tranquillement chez eux et qui engrangent. Voilà.
Mais à un moment ou un autre, soit on le fera de manière convenable dans un débat public serein, peut-être en 2027, et qu'on traite ces problèmes-là. Voilà, de répartition en fait. De répartition entre générations, c'est la retraite, mais répartition aussi des grands capitaux entre générations, c'est l'héritage pour les plus gros héritiers trans. Mais je pense qu'on aura de toute façon ce débat-là à un moment ou à un autre. Si on ne veut pas qu'il y ait une forme de révolution, une
un nouveau mouvement jaune.
Mais tout ça doit être équilibré. C'est-à-dire qu'il faut aussi entendre que la fraude fiscale doit être combattue, que la fraude sociale doit être combattue. C'est-à-dire que grosso modo, il faut que chacun fasse des efforts. Il faut que chacun fasse des efforts. Et il faut également que l'État fasse des efforts en se réformant, en optimisant la dépense publique, en sachant que, vous voyez, par exemple, dans la proximité, j'ai lu une enquête qui a été publiée récemment sur la satisfaction des Français à l'égard de leur service public. Globalement, ils sont satisfaits. 75% des Français sont satisfaits de leur service public. Moi, je vois, tout à l'heure, quand j'interroge ma population, la population
tu as une maison de service.
Une maison France Service. Spontanément, j'ai des gens qui viennent me voir en me disant: vous savez, M. Arnaud, ce que vous avez fait avec Daniel Bourret, avec l'équipe municipale, avec la maison France Service, c'est top.
C'est bien ça.
Parce que voilà, on a une humanisation dans la relation. Donc les gens, quand les fonctionnaires, moi je tape pas sur les fonctionnaires, on a des fonctionnaires qui font super bien leur boulot. Mais peut-être on a des fonctionnaires à des endroits où ils ne devraient plus être. C'est tout. Mais là où ils sont, on a une hyper proximité, ils font un super boulot. Donc il faut qu'on arrive à réformer ce pays. Qui aura le courage? Moi j'entends un discours avec Édouard Philippe plutôt courageux. Est-ce qu'il ira au bout? J'en sais rien.
On parlait de ces quatre d'Édouard Philippe, le retour.
Bah, ça m'étonnerait. Hein.
Non, mais,
c'est la dernière émission.
Non, mais je dis, on va en parler dans l'actualité. Édouard Philippe, peut-être que ce sera un nom pour 2027. Enfin, il y a de fortes chances. Je pense qu'en tout cas, il fera tout pour se présenter.